Avoir raison avec Fukuyama, une émission d'Isabelle Lasserre réalisée par Lionel Quentin. Avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et Nicole Gnesotto, titulaire de la chaire Union européenne au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. En 1992, le politologue américain Francis Fukuyama, professeur à l'université de Stanford, publie « La fin de l'histoire et le dernier homme », un essai retentissant dans lequel il affirme que la progression de l'histoire humaine, envisagée comme un combat entre les idéologies, touche à sa fin avec le consensus sur la démocratie libérale. Le mur de Berlin est tombé, l'URSS communiste s'est effondrée, libérant soudain un espace qui était sous le joug totalitaire. L'euphorie qui s'empare à l'époque des relations internationales convainc Fukuyama de la victoire définitive de la démocratie libérale dans le monde. Dans un livre paru en 1996, « Le choc des civilisations », qui fera lui aussi grand bruit, l'universitaire américain Samuel Huntington lui donne la contradiction. Avec le 11 septembre 2001, les printemps arabes, le retour de la guerre et les attentats terroristes, l'histoire semble lui avoir donné raison. Francis Fukuyama s'est-il trompé ? A-t-il à tort annoncé l'avènement d'un monde pacifié ? Ou bien a-t-il été mal lu, mal interprété, victime en quelque sorte du titre réducteur et écrasant de son livre ? Et s'il avait finalement raison, si la démocratie, en témoignent les révoltes démocratiques nouvelles à Hong Kong ou en Algérie, ne pouvait que gagner à long terme face au fondamentalisme musulman et au régime extra-autoritaire ?
Ce que j'ai observé dans le monde, c'est que l'on assiste à un très vaste consensus intellectuel quant à la légitimité des idées démocratiques libérales. Et je pense que dans cette pièce, dans votre pays, dans mon pays, personne n'imagine qu'il y ait un État supérieur, une forme meilleure de société par essence, sur le plan des principes.
Vous écoutiez la voix de Francis Fukuyama, c'était une archive de l'INA datant de 1992, un débat autour du politologue mené par Bernard Rapp. Alors, à l'époque, en 1992, la guerre froide est terminée, la Seconde Guerre mondiale n'est plus qu'un mauvais souvenir, et le monde, selon Fukuyama, est à l'aube d'une civilisation humaniste, démocratique et libérale. Hubert Védrine, vous avez présenté la traduction française de la dernière édition de La fin de l'histoire. Quel était le contexte de l'époque ?
Le contexte de l'époque, de l'article et du livre de Fukuyama, vous l'avez rappelé, c'est la fin du non, qui est la vraie date. Le mur de Berlin, c'est une date extrêmement exagérée, en fait, émotive, visible, tout ce qu'on veut, mais si on parle avec des Polonais ou des Hongrois, ils n'ont pas le même point de repère. Donc disons plutôt la fin de l'URSS. Donc la fin de l'URSS, c'est fin 92, et à partir de là, on est dans ce fameux monde global qu'on n'a jamais bien réussi à définir. Vous voyez, avoir la thèse Fukuyama, la thèse Huntington que vous avez rappelée. Donc c'est l'idée, en effet, que l'URSS s'est effondrée, l'Occident a gagné. Interprétation triomphaliste du côté américain, nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis, disait le président Bush, le père. Après, ils ajoutaient qu'ils allaient s'occuper de la sécurité du monde parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, mais parce qu'ils y étaient contraints. C'était la théorie du reluctant shérif par rapport à ça. Donc c'est ça le contexte. Et c'est un moment aussi de très grand optimisme du côté européen, plus ingénu, plus naïf. Que moi, je résumais comme étant la pensée bisounours des Européens à l'époque. Mais en tout cas, c'est très dominant. Donc on peut dire que dans la période dont nous parlons, l'Occident en général, et notamment l'Europe, est fukuyamesque, mais les Européens sont fukuyamesques avant Fukuyama, longtemps avant, puisqu'ils ont cru depuis très très longtemps au dépassement de l'histoire, au dépassement des identités, au dépassement des rapports de force. Il y a un mélange d'idéalisme philosophique et de pensée OMC, on va dire. Tout va se noyer dans le commerce et le développement. C'est ça le contexte de l'époque.
Oui, on pourrait même dire que les Européens, enfin ce sera le débat de notre deuxième partie, mais sont toujours aujourd'hui aussi fukuyamesques. Nicole Gnesotto, il y a quand même des guerres qui éclatent dans l'ancienne Yougoslavie. Le Moyen-Orient n'est quand même pas stable. La guerre en Irak se prépare. Est-ce que pour Fukuyama, c'est vraiment l'effondrement de l'URSS et du communisme qui est l'acte fondateur du nouveau monde qu'il annonce ?
Oui, et d'ailleurs, en cela, il a raison. Mais juste avant, je voulais dire quand même que son premier article, il date de l'été 89. Donc le mur de Berlin n'est pas encore tombé, l'Union soviétique existe toujours. Or, qu'il ait raison ou tort, il a quand même fait un travail d'anticipation prospective de assez extraordinaire. Moi, je suis vraiment frappée à l'époque de la créativité de la réflexion américaine. On a eu Fukuyama, on a eu Huntington, on a eu tout de suite après Friedman sur la Terre est plate, c'est sur la révolution numérique. Autrement dit, à l'époque, que ce soit sur les révolutions stratégiques ou les révolutions technologiques, il y a une créativité de la pensée américaine. Et je dois dire d'ailleurs que, à la même époque, vous aviez écrit l'hyperpuissance américaine. Mais donc voilà, je voulais dire simplement que, qu'il ait raison ou non, il y avait chez cet homme, il y a toujours d'ailleurs une capacité d'analyse prospective assez extraordinaire. Ensuite, quand il écrit, les événements vont effectivement dans un sens plus pacifique, plus démocratique. Il n'y a pas eu encore la guerre dans Yougoslavie. La première guerre d'Irak en 91, ça sera au contraire la validation totale de la thèse de Fukuyama, puisque c'est la seule guerre, entre guillemets, enfin la seule intervention des Nations Unies démocratique, c'est-à-dire le monde entier uni pour aller punir un agresseur qui a violé le territoire d'un autre, qui le remet chez lui, et ensuite tout le monde rentre à la maison. Donc c'était le respect du droit international, y compris avec la Russie. Ce qui est vrai, en tout cas, ce qu'il a bien senti au départ, c'est que l'événement de la fin de l'Union soviétique, c'était un nouveau monde. Qu'on n'allait pas continuer avec le monde comme d'habitude, moins l'URSS. Et il a bien senti que c'était l'inauguration d'un nouveau système international, dont il a ensuite essayé de tirer les conclusions jusqu'au bout. Mais ça, je crois que là-dessus, il a eu raison. Le monde a changé profondément. Moi, je dirais effectivement à partir de 85, à partir de Gorbatchev, et on en voit ensuite les effets. Il a aussi raison sur le fait que la chute de l'Union soviétique, de facto, presque de façon automatique, entraîne la victoire unique du modèle libéral occidental incarné par les États-Unis. Et ça n'est qu'après que les choses vont sembler le contredire. Mais il a toujours dit lui-même qu'il fallait distinguer le court terme et le long terme. Et
ça, on y reviendra voilà. Dans une Donc, deuxième partie. Je voulais juste un petit peu d'abord essayer de comprendre pourquoi Fukuyama a eu un tel succès et pourquoi il nous a fait autant rêver.
Alors, il a eu un succès, mais il a eu un succès critique. Moi, je me souviens, il y a eu deux numéros de commentaires à l'été et à l'automne 89, c'est-à-dire quand il sort son premier papier, et il y avait du pour et du contre. Moi, je me souviens d'un papier de Pierre Hassner qui disait « Fin de l'histoire ou nouveau cycle ». Et donc, il a fait rêver, je crois, beaucoup la société américaine. C'était effectivement, comme Hubert Védrine l'a dit, c'était le moment du triomphalisme américain idéologique maximum, c'est-à-dire la démocratie avait gagné, donc l'Amérique avait gagné, donc l'Occident avait gagné, et il y avait cette hubris intellectuelle qui a correspondu ensuite à un hubris stratégique que Bush 2 va mettre en œuvre en 2003 avec la
Bush
guerre.
Bush 3 n'est pas encore arrivé.
Non. Mais donc je crois qu'il il a fait rêver l'Amérique en la convaincant encore plus de l'exemplarité, de l'excellence et de la supériorité du modèle américain. En Europe, je trouve que les réactions ont été, comme toujours, partagées. Il y a eu effectivement un certain nombre d'admirateurs. Alain Minc, par exemple, quand il a sorti son bouquin sur la mondialisation heureuse, était complètement dans la ligne de Fukuyama. Mais il y a eu quand même une veine critique assez importante sur le fait que, est-ce qu'il y a l'histoire a un sens ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est tout à fait nouveau ? Il y a eu déjà beaucoup de cycles eschatologiques, etc. Que Kojève avait déjà pensé tout ça. Donc, je ne suis pas... Les Européens avaient un sens du tragique, entre guillemets, ou de la complexité de l'histoire beaucoup plus forte. Et je ne suis pas sûr qu'en Europe, il a fait rêver autant qu'aux États-Unis.
Hubert Védrine ?
Oui, j'ai un point de vue un tout petit peu différent. Enfin, je suis tout à fait d'accord sur l'interprétation hubris du côté américain. Mais pour moi, Fukuyama, d'abord, voir que l'URSS allait finir par se désagréger, c'est pas génial. Hein. Énormément de gens raisonnaient comme ça, Mitterrand raisonnait comme ça depuis octobre 81, quand il avait dit Helmut Schmidt que la réunification aurait lieu dans 15 ans maximum, peut-être 10, parce que l'URSS ne pourrait plus l'empêcher, parce que... Donc pas mal de gens pensaient ça. Donc Fukuyama, c'est une brillante surinterprétation, à mon avis, avec l'expression hubris du côté américain. Et moi, je dirais que du côté européen, c'était quand même plus largement partagé, parce que c'est ce que pensaient déjà les Européens. C'est ce que les Européens espèrent de façon pathétique depuis l'après-guerre. Renoncer aux politiques de puissance, à l'histoire, aux identités, aux relations internationales, le monde post-traumatique, quoi, en quelque sorte. Donc il fallait quelqu'un comme Fukuyama. Il se trouve que c'est un Américain, mais enfin, ça aurait pu être européen. Donc je peux, en dehors de quelques revues subtiles comme commentaires que Nicolas citait, je pense que l'adhésion spontanée des Européens était plus forte, et vous en parlez tout à l'heure, on en parlera après, ça continue d'une certaine façon. Et moi, j'ai jamais partagé ça. Je trouvais le rêve de Fukuyama assez sympathique, hein, assez séduisant, mais j'ai jamais pensé que c'était vrai. Et au moment où il disait que l'histoire allait s'achever faute de combattants idéologiques, l'histoire recommençait, en fait. Et c'est là le principal contresens.
Dans l'esprit de Fukuyama, cet effondrement du communisme et de l'Union soviétique devait aussi se propager à l'ensemble du monde.
Ben, quand on le lit dans les différents textes, oui, c'est évident que ça va se répandre partout, la démocratie, le marché. D'ailleurs, Bill Clinton résumait ça en un mot, la démocratie de marché, c'était la même chose. Il y aurait bien sûr quelques pays récalcitrants, un peu arriérés, mais qu'on allait ramener à la raison par des discours moraux, par des prêchis-prêchats, ou alors par des menaces, ou par des sanctions, éventuellement des interventions. Mais enfin, ça paraissait secondaire et déjà condamné par l'évolution historique. C'était ça l'idée, c'était censé être global. Et dans tous ces commentaires de l'époque, il n'y a rien sur la Chine. Rien, non, rien, rien.
Absolument.
Hein? Alors rien. Le tournant historique chinois, c'est Deng Xiaoping quand il prend le contrôle finalement vers 79 à peu près, qui va déchaîner la gigantesque énergie de la Chine. Donc là, il y a quand même l'angle mort dans cette réflexion pseudo-géniale.
Écoutez Go West de Pet Shop Boys, dont le titre et l'entrain résument à eux seuls le vent d'espoir qui soufflait à l'époque à l'est du continent. Et maintenant, je vous invite, Nicole Nedotto et Hubert Védrine, à écouter la voix de l'historien Pierre Nora qui répond à Francis Fukuyama dans un débat de Bernard Rapp sur FR3 en 1992.
C'est pas d'aujourd'hui que la fin de l'histoire existe. C'est en 1945, si vous voulez, vous auriez pu dire la même chose. À partir de la défaite du nazisme, vous pouviez dire c'est la fin de l'histoire, d'une certaine façon, ont été disqualifiés ou a été disqualifié ce qu'il y avait de radicalement opposé à la démocratie libérale. Vous pouviez le dire du temps de Hegel, mais pratiquement depuis Hegel, ce sont les principes de la démocratie libérale qui ne cessent de se poursuivre. Par conséquent, je ne conteste pas le fond de votre thèse. Je ne conteste pas le fond de votre thèse. Je conteste très profondément le fait et les effets que vous en tirez à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de déclarer aujourd'hui la fin de l'histoire.
Alors, à l'époque, Fukuyama avait été mieux accueilli en France que Samuel Huntington, dont il avait d'ailleurs été l'élève, et qui avait annoncé, lui, un choc des civilisations. Pierre Nora était l'une des voix qui lui apportait la contradiction avec Pierre Asner, dont on a parlé. Et depuis, c'est vrai que le 11 septembre 2001 a porté un sérieux coup à la thèse de Francis Fukuyama. Le retour de la guerre depuis le début des années 2000, le défi nouveau posé par les djihadistes de Daesh ou d'Al-Qaïda semble plutôt avoir donné raison à Samuel Huntington. Il disait notamment que le monde post-soviétique se dirigeait vers plus de conflictualité et que le modèle occidental allait être remis en question au nom du refoulé identitaire. Alors ce refoulé identitaire, finalement, c'est un peu la définition de notre monde européen, non ? Celui annoncé par Samuel Huntington, Hubert Védrine.
D'abord une remarque, Pierre Nora a toujours une pensée étincelante. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire précis, aigu, remarquable, de lucidité. Deuxièmement, attention au contresens sur Huntington. Huntington n'a jamais été favorable au clash des civilisations. Il dit à Fukuyama, mon pauvre ami, vous êtes trop naïf, vous vous trompez. Nous sommes menacés par toute la bien-pensance mondiale lui est tombée dessus en disant c'est effrayant de parler de civilisation, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, les mêmes disaient, c'est des conflits à l'intérieur des civilisations, ce qui est vrai par ailleurs, mais ça n'empêche pas le raisonnement. Et donc, Huntington disait simplement, on est menacé par, il faut donc anticiper là-dessus et s'organiser en conséquence. Mais il a été rejeté, vilipendé, comme s'il préconisait une sorte d'organisation générale dans ce sens.
Quand on lisait ce livre à l'époque, je me souviens, c'était quand même très très mal vu dans certains milieux.
Je sais bien. Et moi, j'ai eu un jour un échange très intéressant avec Jacques Chirac, pendant que j'étais ministre, je le voyais souvent. Et un jour, il me dit, moi, je condamne absolument la théorie du clash. Et moi, je lui dis, je pense qu'il vaut mieux combattre le risque que de combattre la théorie. Alors, il me dit, mais vous pouvez pas parler de choc des cultures, c'est absurde, c'est de l'inculture totale. Je lui dis, oui, c'est de l'inculture majoritaire, massive, et l'affrontement n'en est que plus dangereux par rapport à ça. Donc c'est un débat philosophique, théorique, tout ce qu'on veut, mais qui peut avoir des conséquences sur les politiques étrangères construites. Alors après, c'est vrai que l'Occident a été très fukuyamesque, notamment les Européens par ingénuité dans la décennie 90. C'est vrai qu'à partir du 11 septembre et d'autres phénomènes, ça part plutôt dans l'autre sens. Mais tous les deux, en fait, ont une, Nicole le disait, ils ont une pensée plus complexe, notamment sur Fukuyama, et plus subtile que
oui,
ça.
Oui, ça on le verra, mais générale, est-ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde de Huntington ?
Je crains que oui, en partie, parce que là... C'est évident que les identités ne se sont pas dissoutes dans la croissance, ni l'universalisme, ni tout ça. Il y a la Chine, il y a Trump, il y a Poutine, il y a Netanyahou, encore quelques temps, il y a l'Arabie, tout ça. Bon, c'est évident qu'il y a un monde d'identité dure. Mais ça s'oppose, la réalité actuelle est en contradiction avec les espérances de Fukuyama, en tout cas pour le moment, c'est l'histoire court terme, long terme, mais aussi avec toute la pensée OMC. Regardez l'analyse des gens qui ont plaider ou imposer l'entrée de la Chine dans l'OMC alors qu'elle ne respecte pas l'ensemble des règles et toujours pas, la façon dont ils argumentent dans ce sens, et la façon notamment aux États-Unis où ils s'estiment trompés, enfin ils se sont trompés eux-mêmes par rapport à ça, c'est le même bloc de pensée. C'est pour ça que les Occidentaux qui ont dominé le monde pendant 2-3 siècles ont le plus grand mal à atterrir dans cette situation actuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tomber uniquement du côté des anticipations les plus tragiques d'Huntington. Par exemple, il n'y a pas l'accord qu'il craignait le plus entre le monde confucéen et le monde musulman, comme il le disait. Il n'empêche que la réalité est plutôt de ce côté-là, pour le moment.
Et vous, Nicole Gnesotto, est-ce que vous pensez qu'on vit dans le monde qui était décrit, enfin redouté d'ailleurs, par Samuel Huntington ?
Oui, largement. Enfin, largement, on vit dans un monde double, enfin, ou comment dit-on ambivalent. Il y a à la fois la victoire de la pensée de Huntington parce que les affrontements par le culturel sont aussi importants que les affrontements régaliens, mais les affrontements régaliens n'ont pas pour autant disparu. On n'est pas passé d'un système à un autre. Je crois que là où Huntington avait raison, c'est de dire que la fin du communisme et donc la fin de la guerre froide était peut-être la victoire de la démocratie, mais était surtout la victoire de la recherche de l'identité. Ça, Fukuyama ne l'avait pas vu. Et ce que Huntington ajoute, qui est très vrai aujourd'hui, c'est qu'on a beau acheter des McDonald's sur toute la planète, on n'a pas forcément envie de devenir américain. Et que plus la mondialisation gagne, plus la mondialisation est victorieuse, plus le réflexe politique de différenciation augmente. Et ça, je crois que c'est très vrai. Il y a une espèce de plafond de verre entre l'unification économique du monde et la volonté de diversification politique et culturelle des peuples, des nations. Et ça, je crois que c'est quand même aujourd'hui vérifié par Huntington. Là où il avait raison aussi, et où Fukuyama avait tort, c'est que Fukuyama pensait que le communisme avait été la dernière idéologie et que étant battu, ou en tout cas en Russie, parce qu'encore une fois, il n'a pas vu que ça se maintenait en Chine, ou en tout cas, il l'a marginalisé, la démocratie était donc, enfin, la démocratie libérale et l'économie libérale de marché étaient la seule organisation possible des sociétés humaines. Mais ce que dit Huntington, c'est que la fin des idéologies, c'est aussi une idéologie et que d'autres idéologies peuvent naître. Et quand on regarde aujourd'hui, effectivement, je ne pense même pas à l'intégrisme islamiste, parce que je crois qu'ils n'ont pas la vocation, la prétention à l'universel qu'avait l'idéologie communiste. Mais quand on regarde monter d'autres choses, en particulier, moi je suis très sensible à les mouvements antispécisme, aux mouvements, aux tendances un peu autoritaires, voire totalitaires qu'il peut y avoir dans certaines revendications ou mini-groupes écologistes. Quand on voit tout cela, la remontée du nationalisme, on peut se dire qu'effectivement, Huntington avait raison, il y a d'autres idéologies qui peuvent naître, et surtout, je crois, mais ça, c'est encore plus d'actualité, ce qui peut menacer l'économie libérale et le système libéral, c'est pas simplement une alternative qui s'opposerait à elle, c'est la crise interne du système libéral. Ce sont les démocraties elles-mêmes qui sont en train aujourd'hui de détruire, ou en tout cas de fissurer les démocraties.
Hubert Védrine, pourquoi le modèle de démocratie européenne ne séduit pas les pays émergents ? Émergents ou émergés d'ailleurs ?
D'abord, il y a la crise générale du libéralisme qui était trop dérégulée, trop financiarisée, trop dollarisée, trop numérisée. Ça permet donc, par exemple, aux États-Unis de rattraper le monde entier par une politique éhontée de sanctions. Donc ça, c'est pas totalement séduisant. Après, il y a une crise dans la démocratie, mais pas spécialement en Europe. Qui est qu'à l'époque moderne, où les gens sont assez disponibles et parfaitement informés, ils n'acceptent plus la démocratie représentative, qui est le système d'origine. On confie un mandat à quelqu'un, puis on le laisse travailler et on juge à l'arrivée. Ça, c'est plus possible, puisque les dirigeants sont jugés à chaque minute et ça devient progressivement impossible de diriger ou de gouverner les démocraties occidentales très avancées. Donc, du point de vue des autres, ils se disent que c'est pas forcément la solution. Et même s'il y a des populations qui aspirent à ce que leurs droits soient respectés, personne n'a envie d'être assassiné naturellement, mais même emprisonné, jugé de façon tout à fait biaisée ou persécuté dans sa vie quotidienne. Donc il y a un mouvement partout, dans n'importe quelle partie du monde, dans n'importe quel système, à partir d'une partie de ce que nous appelons nos valeurs. Mais ça ne veut pas dire que les mêmes attendent maintenant la transposition de la démocratie à l'occidentale, qui paraît quand même bien fatiguée, bien malmenée. Bon. Donc il faut dissocier les deux choses. Je crois qu'il y a un vrai avenir pour cette demande dans les peuples partout, mais ce n'est pas un instrument de pouvoir ou d'influence de l'Occident qui est concentré sur ces difficultés. Vous avez dit européen, c'est un peu vrai aux États-Unis, sinon on ne peut pas comprendre l'élection de Trump. Vous voyez. Donc il y a un phénomène, c'est moins rayonnant, c'est moins séduisant. Alors le système chinois n'est évidemment pas séduisant pour des pays qui ont pris goût à la démocratie, même imparfaite, mais pour tous ceux qui sont entre les deux, et qui jugent que les démocraties modernes sont extraordinairement inefficaces, qui finissent par s'auto-paralyser complètement, par des consultations sans fin, des recours sans fin, et finalement, à la fin des fins, on décide de rien. Bon, il y a une grande partie du monde qui se dit quand même, un système chinois, mais peut-être moins verrouillé, avec moins de contrôle, ça serait séduisant. Il y a plusieurs dizaines de pays qui sont tentés par ça. Et nous qui avons fait la loi et les prophètes pendant tellement longtemps, on est désemparés par l'idée même d'une comparaison, en fait, d'une alternative. C'est pour ça qu'on est déboussolés, et que ça fait que les Américains sont erratiques et votent à chaque élection présidentielle pour le contraire exact du président sortant. Donc ils ne savent plus bien où ils sont. Et nous, les Européens, on n'en finit pas d'essayer d'atterrir dans le monde réel tout en préservant l'essentiel de ce à quoi nous croyons. On est plus malmenés, nous, par l'évolution du monde que si on était des Chinois ou n'importe quel autre peuple.
Nicole Gnosoto, vous vouliez aussi vous exprimer sur cette question de démocratie exportée ou non exportable en dehors du continent européen et de l'Occident traditionnel.
Ben, en tout cas, elle n'est pas exportable par la force, ça, on l'a bien vu. C'était la leçon de 2003, où Fukuyama, d'ailleurs, qui au départ était pour l'intervention en Irak, après s'est beaucoup distancié des néoconservateurs dont il était au départ. Il était quand même, avec Wolfowitz, il était.
Sur le Proche-Orient, il a toujours été.
Oui, mais au départ, il était pour une intervention en Irak, oui. Ça, oui.
Et puis après, il a voté Obama.
Oui, oui. C'est un signe d'intelligence que de reconnaître ses erreurs. Mais est-ce qu'elle peut s'exporter par l'exemplarité? Peut-être, sauf que les démocraties ne sont pas exemplaires. Elles ne l'ont pas été aux États-Unis pendant toute la période de Bush, et en Europe, elles sont exemplaires par leur, surtout par leur passivité et leur inexistence. Et donc, c'est pas forcément un modèle facilement exportable. Non, moi, je voulais revenir sur le modèle chinois. Je pense qu'il y a peut-être une alternative dans le modèle chinois, c'est-à-dire que les Chinois remettent en cause toute la science politique occidentale, dont on a cru qu'elle avait toujours raison, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré d'enrichissement, les classes moyennes apparaissent, qu'elles veulent la liberté du commerce, de laisser faire, laisser passer, et qu'après, à partir d'un certain degré de liberté du commerce, elles veulent plus, elles veulent un certain degré de liberté politique, dont démocratie, etc. C'est ce qu'on nous apprend dans toutes les écoles, et ça a été vérifié partout, en Amérique latine, en Espagne, au Portugal, en Grèce, partout, sauf encore au Moyen-Orient et surtout en Chine. Ce que montre la Chine, c'est peut-être une autre vérité politique, je ne sais pas, mais qui est de dire qu'on peut parfaitement concilier l'enrichissement, la classe moyenne, la demande de prospérité et le régime autoritaire. Et ce modèle prospérité autoritaire, opposé au modèle libéral, c'est-à-dire croissance démocratique, ce modèle chinois, il est attractif pour une bonne partie de la planète, pour l'ensemble des pays du tiers-monde, parce que prospérité dans la dictature, c'est quand même mieux que misère dans la dictature. Donc, moi, je crois qu'il y aura, dans les années ou les décennies qui viennent, un vrai affrontement idéologique entre un modèle américain qui est de moins en moins estimable à cause de l'hypocrisie, des contradictions et des malveillances de la politique américaine, et un modèle chinois, alors qui, évidemment, au niveau individuel, ne fait pas rêver, mais qui peut permettre de vivre des millions, peut-être des milliards de gens plus aisément qu'ils n'ont fait jusqu'à maintenant.
Et ça n'avait absolument pas été anticipé par Francis Fukuyama.
Dans le sens de Nicole, je dirais que même en Inde, vous savez, on dit, mais pour des raisons plutôt statistiques qu'autre chose, c'est la plus grande démocratie, en tout cas la plus peuplée. Même en Inde, il se trouve des gens pour écrire dans des journaux. Comment se fait-il que les Chinois ont réussi à faire en 20 ans des centaines d'autoroutes et que nous, l'Inde, on n'a toujours pas fait l'autoroute Bombay-Delhi? Alors ça renvoie à la lenteur de la décision, aussi de la corruption, mais enfin il y a de la corruption aussi en Chine, donc c'est pas l'explication. Donc là ça peut aller dans ce sens. Bon, en même temps, la séduction du régime chinois, elle est très forte à mon avis pour des dirigeants en fait, pour des dirigeants, des décideurs, et oui, qui sont donc moins persécutés, harcelés à chaque minute que dans les autres systèmes. Pour les peuples, ça dépend dans quel état ils sont. Il y a des peuples pour lesquels ce serait une amélioration relative, d'autres non. Mais c'est vrai, Nicolas a raison, ça. Il n'y a plus un seul système, il n'y a pas une seule référence, même s'il y a des failles et des faiblesses dans le système chinois. Et pour nous qui avons été au centre de tout, c'est très perturbant quand même.
Vous écoutiez l'hymne soviétique par les chœurs de l'Armée Rouge et vous êtes sur France Culture, Avoir raison avec Francis Fukuyama, deuxième partie. Depuis le début des années 2000, le retour fracassant de la guerre et l'ensauvagement des relations internationales semblent avoir donné raison à Samuel Huntington qui prophétisait un choc des civilisations plutôt qu'à Francis Fukuyama, le théoricien de la fin de l'histoire. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce dont nous allons parler tout de suite avec Hubert Védrine et Nicole Gnesotto.
On pense que je suis trop optimiste, mais je suis optimiste seulement dans une très long terme. Je pense que il y avait un progrès pendant les siècles vers la démocratie, comme a dit Alexis de Tocqueville.
Hubert Védrine, finalement, Francis Fukuyama s'inspirait autant de Tocqueville que de Hegel. Il reprenait les interrogations de Tocqueville. Il pensait notamment à une avancée inéluctable de la démocratie, mais en s'interrogeant sur ce que pourrait donner le principe universel de l'aspiration à l'égalité et à la liberté. Est-ce qu'il vivait dans ce monde de bisounours que vous décrivez de temps en temps, ou est-ce qu'en fait, Fukuyama n'a pas été mal lu?
Mais j'emploie pas l'expression de bisounours à propos de Fukuyama, hein. J'en parle à propos des Européens en disant qu'ils ont cru vivre dans le monde des bisounours, donc de post-historique, post-traumatique et compagnie, alors qu'ils vivent dans Jurassic Park. Il y a d'ailleurs, j'en profite pour le citer, l'ancien président du SPD allemand, Sigmar Gabriel, qui a dit quelque chose de remarquable dans le même esprit. Il a dit, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques, et nous allons finir par être des proies. Bon. C'est assez remarquable qu'un Allemand puisse dire ça maintenant. Mais ça, c'est le débat actuel sur l'Europe. Sur Fukuyama, le débat reste ouvert. Parce que c'est vrai qu'il y a, dans ce qu'il a dit, si on ne regarde pas le court terme qui lui donne tort, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a sans doute une aspiration générale, mondiale, dans tous les peuples, dans toutes les cultures. Sauf que je ressouligne que ce n'est pas parce que c'est les aspirations en question, les fameuses valeurs universelles, la sécularisation des valeurs chrétiennes, si on voulait lancer un autre débat, en fait, celle des Lumières, c'est pas parce qu'elles sont fortes aux yeux de tout le monde et de tous les peuples et de n'importe quelle personne dans le monde que ça veut dire rendre raison à l'Occident, ni lui redonner son rôle, ni lui redonner ses leviers. Donc il se peut tout à fait que nous vivions dans l'avenir un monde dans lequel l'Occident gardera la puissance et la richesse, mais relativement, alors qu'il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a tous les autres, des dizaines et dizaines des pays de l'ancien tiers-monde, mais qu'en même temps, des valeurs, une partie des valeurs en question ont été reprises du message occidental universel, recyclées dans des cultures indiennes, chinoises ou russes, que sais-je, et qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe sur le fait que ça va nous redonner mécaniquement un rôle central. On ne le retrouvera pas. Donc même si Fukuyama a raison sur le long terme, ce qu'on ne peut pas du tout exclure, ça ne veut pas dire retour à la domination et du monopole occidental. Et quelque part, les théories de Kishore Mabubani, le géopoliticien singapourien, qui va plus loin, il est provocateur, lui dit pas c'est la fin du monopole occidental, il dit c'est la fin de la parenthèse occidentale. Peut-être qu'il a raison un jour, j'espère que non, en termes géopolitiques, mais pas en termes philosophiques. Donc sur le long terme, vous voyez, je suis un peu entre les deux, parce qu'on peut pas exclure, on peut exclure aucune des évolutions.
Nicole Gnesotto, la polémique à propos de la fin de l'histoire, finalement, est-ce que c'est pas un grand malentendu? Parce que Fukuyama n'a jamais annoncé une fin de l'histoire totalement heureuse, débarrassée d'absolument tous les conflits. Dans son livre, il brandit déjà la menace d'un relativisme où la démocratie pourrait n'être perçue que comme un mode de gouvernance parmi d'autres, avec des résistances et avec aussi des chocs historiques assez nombreux avant d'arriver à cette fin de l'histoire. Est-ce qu'on l'a pas mal interprété?
Oui, non, mais sans doute, on l'a interprété rapidement et surtout on l'a lu dans le contexte de l'époque. C'est beaucoup plus facile maintenant de dire que beaucoup d'événements lui ont donné tort. Et c'est vrai, Hubert Védrine l'a dit, à court terme, il a tort. À long terme, moi, je m'interroge quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait un sens de l'histoire vers plus de démocratie. Je ne sais pas. On peut avoir un sens de l'histoire parfaitement chaotique, aberrant, avec des retours en arrière. Je ne suis pas sûr qu'on va vers le mieux. C'est vraiment une question philosophique un peu différente, mais je ne crois pas que l'humanité progresse vers un mieux ou vers le bien politique. En revanche, je suis sûr qu'il y a un décalage entre l'aspiration individuelle de tous les êtres humains à une certaine forme de liberté et la traduction de cette aspiration par le régime politique de la démocratie libérale représentative que nous avons avancé. C'est un peu ce que disait Hubert Védrine vitrine, mais pas tellement sur le plan de la domination occidentale, sur le simple plan du système politique capable d'organiser les sociétés. Je ne suis pas sûr que la seule traduction politique d'aspiration à la liberté soit la démocratie représentative. Donc voilà. Deuxièmement, sur votre question plus précisément, il a jamais dit que la fin de l'histoire c'était la fin des événements et qu'on allait tous s'ennuyer dans une espèce de confort bourgeois repu et nous aimant les uns les autres. Il a jamais dit que la fin de l'histoire était la fin des événements et ni même que c'était la fin des rapports de force. La seule chose qu'il ait dite et qu'on a mal interprété, c'était la fin de l'histoire parce qu'il ne voyait pas quel système pouvait être une alternative au système libéral. Et donc, comme il n'y avait pas d'alternative, et bien même si on se disputait ou on se faisait la guerre, in fine, de toute façon, on allait tous se confondre dans le même système. Et là, donc on l'a mal lu pour ça, mais là, il avait tort.
Il avait tort. Il avait quand même annoncé, c'était un des seuls à avoir à l'époque cité Donald Trump comme une personnalité pouvant émerger dans une dans une démocratie désabusée. Il parlait déjà de cette démocratie désabusée et il parlait, Hubert Védrine, de tous ces chocs et de ces résistances qui pouvaient entraver cette longue marche vers la fin de l'histoire. Alors, en fait, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on serait pas dans cette espèce d'entre-deux avec les chocs et les résistances qui explosent ?
Entre-deux, ça supposerait qu'on sache vers quoi on va, en fait. Et je suis d'accord avec Nicole, puis on l'a dit tous les deux, on est plutôt dans une situation chaotique, comme dit Guterres. Ça veut pas dire guerre, ça veut dire simplement imprévisibilité, instabilité, volatilité. Le phénomène Trump, c'est autre chose, c'est un morceau de la désaffection en Occident des classes populaires d'abord, puis des classes moyennes, par rapport à l'idée qu'on leur a présentée de la mondialisation qui devait être heureuse, et par rapport à l'idée de l'intégration européenne telle qu'elle a été ressentie. Sinon, on ne comprendrait pas Trump, on ne comprendrait pas le Brexit, on ne comprendrait pas qu'il y ait des partis quand même anti-européens ou extrémistes assez forts en Europe. Ça, c'est un autre phénomène, et ça ne répond pas complètement à la question autour de laquelle nous tournons, là, dans votre émission, sur vers quoi on va après. C'est vrai que je trouve l'honnêteté relativement pessimiste de l'interrogation de Nicole très intéressante. On ne sait pas vers quoi on va. Donc il peut y avoir une remise en cause, alors pas forcément de la démocratie comme mécanisme de désignation des dirigeants, mais tout ce qu'on a mis dedans, nous, toute la dimension idéologique, philosophique, la démocratie dite libérale. Elle est menacée par cette espèce de pulsion vengeresse de démocratie, en tout cas de mode de décision instantané, systématique. On peut être consulté sur les portables toutes les 3 minutes sur la décision à prendre. Est-ce qu'on rétablit la peine de mort tout de suite ou pas? Il y a quand même une menace terrible, terrifiante, de dictature généralisée de tous sur chacun. Ça existe. Et si la démocratie, notre démocratie, entre guillemets, n'arrive pas à se relégitimer, à se renforcer par un mode de participation moderne, intelligent, constant, mais qui ne soit pas la dictature de l'instantané, il y a de vrais risques et ça sera, pour revenir au point d'avant, encore moins séduisant. Il y a un autre élément dont on n'a pas parlé encore parce que ça prendrait des heures. Sur la question écologique, la prise de conscience s'accélère, notamment en Europe, ce qui est disproportionné parce que il faudrait surtout que ce soit les Indiens et les Chinois et les Polonais et les Allemands qui utilisent moins de charbon. Bon. Mais on peut pas exclure que dans 10-15 ans, il y a un état de panique. Un état de panique. Quand les gens auront vraiment vu le lien entre la dégradation des systèmes de vie sur la planète, pas pour sauver la planète qui n'a pas besoin de nous pour exister, mais pour préserver la vie sur la planète. Et ça va tellement loin, c'est peut-être tellement dévastateur que moi je n'exclus rien. Il peut y avoir des opinions archi-démocratiques routinières qui demandent des pouvoirs despotiques en urgence. Pour des raisons de sauvegarde, en quelque sorte. Et à ce moment-là, on s'apercevra que le système autoritaire chinois aura peut-être fait des bons en avant, beaucoup plus considérables que nos systèmes où on se consulte sans fin, sans arriver à décider. Tout peut bouger, en fait. Donc, moi aussi, comme Nicole, avec d'autres mots, je n'écarte aucun scénario.
Le concept de la fin de l'histoire, ça vient de Hegel. La fin de l'histoire, selon Marxisme, était l'aboutissement, c'était une utopie communiste. Et moi, quand j'ai écrit l'article en 1981, il ne me semblait pas que le communisme allait être justement l'aboutissement, mais plutôt que ça allait être la démocratie bourgeoise.
C'est un
processus de longue haleine, et ça, je savais que ça n'allait pas naître du jour au lendemain. Et je pense que dans le léninisme, il y a cette idée d'accélérer le processus. Dans le cas du 11 septembre, il y a eu cette idée d'accélérer le rythme de démocratisation, en l'occurrence au Moyen-Orient, et je pense que ça a été une erreur monumentale. On ne peut pas utiliser le pouvoir de cette façon.
Vous écoutiez la voix de Francis Fukuyama dans une archive sur France Culture en 2008. Alors, on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais dans cette archive, Francis Fukuyama suggère que, en fait, l'accélération forcée de la démocratisation a ralenti la marche de l'histoire vers sa fin. Alors, est-ce si finalement les Occidentaux, et notamment les Américains, en essayant d'imposer la démocratie de force comme ils l'ont fait en Irak, peut-être aussi en Libye, comme ils le feront peut-être, qui sait, demain en Iran, si ces Occidentaux avaient en fait, en quelque sorte, fait capoter la fin de l'histoire? Est-ce que l'idée de démocratie libérale n'a pas été discréditée, notamment car elle a servi à justifier des guerres? Et ça, Fukuyama ne pouvait pas le prévoir. Hubert Védrine.
Si, il pouvait le prévoir. L'Occident a toujours été interventionniste. L'Occident a toujours été prosélyte. Pour moi, l'Occident remonte à saint Paul. Aller évangéliser toutes les nations. Hein, c'est un tournant fondamental. Le christianisme n'est pas une petite secte juive pour les juifs, avec un rabbin charismatique, mais c'est un message pour tout le monde, même les Grecs, les Romains. Donc pour moi, la chrétienté est devenue Occident longtemps après, à la même pulsion prosélyte, et veut droit-de-l'homiser le monde, comme elle a évangélisé, comme elle a colonisé, etc. Je pense que c'est mentalement un peu la même démarche. Donc c'est très prévisible. Et après tout, on est intervenu sans arrêt dans l'histoire du monde, avec des arguments qui ont changé selon les époques, mais il y avait toujours une intervention. Donc Fukuyama le sait, qui est un homme immensément cultivé, un historien très, très aiguisé, donc ça pouvait se deviner que ça allait continuer. Alors ce qu'on ne voyait pas forcément à l'époque, c'est que l'islam aussi, qui est une religion très très prosélyte, était en phase éruptive également par rapport à ça, d'où les convulsions extraordinaires auxquelles nous assistons en ce moment. Donc c'était quand même prévisible. Je vois pas bien l'Occident, enfin on va peut-être être contraint de devenir comme ça, disons nous avons nos croyances, nos convictions, on les fait respecter chez nous, tout le monde, ça c'est encore un autre combat d'ailleurs, tous ceux qui sont chez nous doivent respecter nos convictions à nous, mais nous renonçons à poser toutes nos idées à tout le monde. Ça c'est quand même pas notre ADN, c'est pour ça que c'est tellement compliqué pour les Occidentaux de se projeter dans le monde réel que nous essayons de définir, même si on le fait de façon modérée, intelligente, pas intrusive, sans ingérence, mais quand même, il y a une lutte avec nous-mêmes dans cette affaire. Pourtant, on va être obligé de s'adapter à les États-Unis eux-mêmes, s'adapter à un leadership devenu relatif. Parce que même s'ils restent numéro un à force d'exploits, je ne sais pas lesquels, ils sont sur un pied d'égalité, donc même ça, c'est perturbant. Donc je reviens sans arrêt à la même remarque. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous vivons, est plus compliqué à analyser pour des Occidentaux européens idéalistes avec les messages que nous avons à l'esprit que pour tous les autres. Et pourtant, nous allons être contraints de nous adapter en restant nous-mêmes si possible.
Nicole Cusotto, est-ce que les tentatives d'imposer la démocratie par la force qu'on a vues à l'œuvre dans les années 90 et notamment du côté américain ont pu ralentir cette marche de l'histoire? Est-ce que c'est pas ça aussi qui a ensauvagé cette partie du monde à cette époque?
Oui, moi je crois que les démocraties pourrissent autant de l'intérieur que par attaque de l'extérieur. Alors, si tant est qu'il y avait une fin de l'histoire vers la démocratie universelle, c'est un peu comme Kant et la paix universelle, c'est de la théorie philosophique, mais c'est vrai que les démocraties ont joué contre elles-mêmes, par les interventions militaires. Donc la guerre en Irak a été effectivement, je crois, un tournant très important dans l'image que le monde a, non seulement de la puissance américaine, mais de l'hypocrisie de la démocratie libérale, mais également par une espèce de, comment dire, d'arrogance politique extrême vis-à-vis de la Russie. Moi, je ne suis pas du tout un défenseur de Monsieur Poutine, mais c'est vrai que les 10 années qui ont suivi la chute de l'Union soviétique ont été une occasion manquée que l'Occident n'a pas su du tout utiliser.
Je suis totalement d'accord.
Et aujourd'hui, on a un Poutine qui est totalement nationaliste, hystérique, autoritaire, etc. Mais on est un co-responsable de cette évolution.
Il n'est pas hystérique, hein, il est provocateur.
Oui, on est quand même co-responsable parce que les démocraties n'ont pas su aider l'héritière de l'URSS à devenir autre chose que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, je crois que les démocraties aussi, troisièmement, sont inefficaces dans une espèce de justice sociale. Les démocraties, en tout cas de celles qui jouent la mondialisation à outrance par la dérégulation totale, et là je suis d'accord avec Hubert, l'Union européenne a été très complice de cette dérégulation des marchés, les démocraties n'ont pas su créer ou anticiper les sentiments d'injustice, la montée des inégalités, et aujourd'hui se retrouvent devant des mouvements de remise en cause de la démocratie libérale de marché par les populations européennes elles-mêmes. C'est pas les Indiens et les Chinois qui contestent aujourd'hui le système démocratique. C'est à l'intérieur de nos sociétés, parce que l'économie libérale de marché est parfaitement injuste et qu'elle laisse sur le carreau de plus en plus de gens.
Alors justement, vous me fournissez ma transition pour ma question suivante, mais est-ce que finalement l'avenir de... Elle est un petit peu provocante, mais est-ce que finalement l'avenir de la démocratie, c'est pas la démocratie illibérale, c'est-à-dire une démocratie qui emprunte d'un côté au libéralisme et de l'autre côté au monde autoritaire. Est-ce que Fukuyama peut se retrouver dans ces démocraties illibérales qui poussent de plus en plus sur le continent européen?
Alors, d'abord, moi, je ne supporte pas le terme démocratie libérale, parce que soit on est des démocraties, soit on l'est pas. Mais il n'y a pas la démocratie libérale, puis la démocratie autoritaire. Donc, moi, je préfère dire les régimes autoritaires, qui n'ont de démocratie que le discours, mais qui remettent
et
en cause
élections.
L'état de droit. Oui, ils ont les élections, ils ont le symbole de la démocratie, mais au niveau de la politique, de remise en cause de l'état de droit. Donc voilà. Donc, ces régimes autoritaires, c'est un peu la conversation que l'on avait tout à l'heure. Ils sont une espèce de microcosme de l'attrait, de la séduction du modèle prospérité autoritaire du modèle chinois. Et donc on le voit aussi en Europe, c'est Erdogan, Poutine, Orban, Salvini, il y a quelque chose qui fait que les populations aujourd'hui sont tentées par vouloir la croissance et en même temps l'autorité. Je ne crois pas que Fukuyama s'y retrouverait du tout, absolument pas. D'ailleurs, il a fait récemment, je crois que c'était là, il y a 2 ans, il a sorti un ouvrage sur
Identity.
Voilà, Identity, parce que justement, il
voulait comprendre sur les aspirations identitaires des peuples et nous
voilà.
Avons des peuples européens.
Alors, moi, j'ai pas lu l'ouvrage, mais j'ai lu quelques comptes rendus de cet ouvrage. Mais j'ai l'impression que l'interrogation qui est juste, pourquoi cette récession démocratique dans les démocraties? Mais malheureusement, je crois pas qu'il apporte la réponse. Mais c'est le questionnement de l'avenir. Moi, je ne sais pas quel sera le monde à venir, mais je suis sûre qu'une des questions à venir, et qu'il faut, c'est pourquoi cette remise en cause de la démocratie par les démocraties elles-mêmes.
Hubert Védrine, est-ce que les démocraties illibérales ou autoritaires sont l'avenir de la démocratie?
Non, rien n'est fatal. Moi-même, je ne me sers pas non plus de l'expression. De toute façon, à l'intérieur du cadre démocratique et des processus démocratiques, on peut avoir des politiques très très différentes. On a parlé, l'un comme l'autre, des excès du libéralisme financiarisé, trop dérégulé. C'était pas le cas sous Roosevelt aux États-Unis, par exemple. C'est un système démocratique. C'était démonté dans les années 70-80 avec la vague de l'école de Chicago, Thatcher, Reagan, etc., etc. Bon. Et puis Obama essaie de re-réguler un peu, et puis c'est défait après. Bon. C'est des évolutions, c'est des moments différents à l'intérieur de l'histoire démocratique. On pourrait tout à fait avoir des régime démocratique où nous l'entendons, qui sur le plan de la combinaison entre l'économique et le social, et j'ajoute l'écologisation maintenant, parce qu'il faut apporter des réponses qui soient plus satisfaisantes quand même, pas pour toute la population, mais le pourcentage de gens qui décrochent, ils sont complètement hostiles, pourrait être ramené à 5-6% et non pas 30%, vous voyez. C'est à l'intérieur de la démocratie. On n'est pas obligé de passer par une sorte de caricature de régime autoritaires, dont on ne sait même pas s'ils sont efficaces. Mmh. Et c'est là où est le risque, parce que les gens dont on parle, les populations, les électeurs, les citoyens, ils sont plutôt attachés dans la démocratie dès lors, à la démocratie dès lors qu'ils en ont connu les bienfaits, mais il faudrait que ça marche. Donc il y a la véritable menace, en effet, elle vient pas de l'extérieur, c'est pas, elle vient pas des Chinois ou de je ne sais qui, elle vient pas du tout de Poutine. C'est, il faut que les démocraties auxquelles nous sommes attachés fonctionnent, donnent des résultats sur tous les plans. Alors après, il y a une question d'hystérie dans le débat général, parce que en réalité, on n'a jamais aussi bien vécu que dans les sociétés européennes d'aujourd'hui. C'est sans comparaison ailleurs ou dans l'histoire. Prenons le cas de la France. Après les transferts de revenus, les allocations, les aides diverses, c'est quand même le pays le moins inégalitaire de l'OCDE, grâce à une fiscalité qui est très 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 lourde, la plus lourde au monde maintenant. Est-ce que c'est un bon système? J'en sais rien. En tout cas, personne d'autre n'en veut dans le système européen. Mais ce que les gens ressentent en général sur la situation économique et sociale française est inexact par rapport aux faits. Mais on est dans un monde où c'est très difficile, sauf peut-être pendant ici à France Culture et pendant quelques minutes, d'essayer de se reconcentrer sur les faits. Donc une grande partie de l'avenir des démocraties dans un sens ou dans l'autre, c'est est-ce qu'on peut redonner au débat public et à l'échange entre les influenceurs d'opinion une structure, un cadre et qui permet de décanter, qui permet d'éliminer. Je suis pas pour les lois contre les fausses informations. On n'y arrivera jamais. C'est indéfinissable. On sait pas où est la limite, etc. Mais là, il y a une responsabilité énorme de l'ensemble de ceux qui participent au débat public. Pas simplement les gens en fonction. Pas simplement les présidents, chanceliers, gouvernements, etc. Tous ceux qui participent à ça. C'est un effort collectif pour sauver ce que nous appelons, nous, la démocratie. Pour qu'elle ne verse pas dans une des caricatures dont on a parlé. Et qu'elle ne soit pas condamnée à imposer aux Européens une sorte de système chinois. Il faut re-responsabiliser tout le monde dans cette affaire.
Alors, dans son dernier livre, Identity, justement, Francis Fukuyama dit que ni la Russie, ni la Chine, mais ni les fondamentalismes musulmans ne peuvent aujourd'hui offrir un modèle de société ou de civilisation qui soit capable de séduire le monde. Alors, c'est une thèse qui est un petit peu à contre-courant aujourd'hui, où on voit au contraire la montée des populismes, la bonne santé des régimes autoritaires et la persistance des idéologies extrémistes musulmanes. Mais donc on assiste plutôt à une régression démocratique partout. Sur cette question du fondamentalisme musulman dont parle Fukuyama dans son dernier livre, qui est aussi un petit peu un mea culpa, hein, enfin une réponse en tout cas à sa fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Hubert Védrine?
Bon, c'est intéressant que Fukuyama travaille sur le point manquant, l'angle mort de ses réflexions initiales.
Les deux angles morts. L'islam et la Chine.
Oui, enfin l'identité, je dirais. Oui. C'est ça l'angle mort. Après, je distinguerai, parce que la Russie n'a aucune prétention à rayonner, à influencer les autres. Elle veut survivre en tant que telle. C'est tout le problème. D'ailleurs, on s'attendait à ce qu'après l'effondrement de l'URSS, ils deviennent des sortes de sociodémocrates scandinaves, qui ne comptaient pas beaucoup, et ils sont restés russes. Un scandale en Occident, ils sont restés russes, c'est quand même effrayant. Bon, vous voyez, j'en parle en souriant. Mais il n'y a pas de problème de prosélytisme sur la Russie. Quel est l'accord réaliste qu'on pourrait avoir pour coexister, pour voisiner correctement avec ce pays tel qu'il est? La Chine et l'islam, c'est quand même différent. L'islam, la Chine, c'est pas séduisant. Historiquement, la Chine n'a jamais cherché à convertir les autres. Ils n'ont jamais inventé les valeurs chinoises universelles. Simplement, il y a une telle puissance, une telle domination. La route des Indes, c'est de la Grande-Bretagne, c'était rien à côté des routes de la soie aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai phénomène, et on l'a dit tout à l'heure, l'efficacité du système chinois, même si c'est au prix d'un contrôle dans lequel les Chinois perdent pas grand-chose, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans une démocratie, donc ils ne renoncent pas, ils n'ont pas abandonné les charmes de la démocratie que nous connaissons, même si c'est un peu affaiblissant. Donc c'est vrai qu'il y a une séduction trouble, en tout cas pour les managers, pour les dirigeants, pour les responsables du système chinois. L'islam, c'est encore autre chose, parce qu'il y a une bagarre mondiale dans l'islam sunnite, entre l'immense majorité des musulmans classiques, on va dire, et une grosse minorité fondamentaliste, une minorité plus petite, qui va plus loin, genre wahhabite, salafiste, et une micro-minorité toute petite, mais qui peut faire des dégâts monstrueux, terroriste, qui fait des dégâts monstrueux dans le monde arabo-musulman. Nous, on est des victimes collatérales. Mais c'est vrai que, même s'ils n'ont pas de rayonnement au-delà, c'est l'idée de Fukuyama, c'est aussi l'idée de Régis Debray, qu'ils n'ont pas de pouvoir de séduction au-delà. Il y a quand même des musulmans très nombreux dans beaucoup d'endroits, y compris en Europe, et il y a une sorte de militantisme très 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 actif face auquel notamment les opinions européennes ont été longtemps aveugles, totalement désarmées, ne sachant pas comment prendre les choses. Donc je ne mets pas les trois sur le même plan. La question russe, il faut un peu de réel politique intelligente, un peu de bon sens pour rétablir une relation différente. La Chine, c'est un énorme défi économique, stratégique, technologique et bon, politique sur le mode de décision. Et l'islam, je pense qu'il faut jouer à fond l'alliance entre les démocraties de partout, les musulmans modérés classiques, pour isoler les extrémistes, pas faire l'inverse. Les réponses ne sont pas les mêmes par rapport à ça. Et moi, je trouve intéressant que Fukuyama continue à réfléchir et développe son analyse et ses pensées bien au-delà de ce qu'il avait, à mon avis, surinterprété au moment de la fin de l'URSS.
Nicole Guizotto, sur cette question de l'attractivité ou non des modèles soit autoritaires chinois, soit fondamentalistes musulmans.
C'est surtout entre la Chine et le fondamentalisme musulman que je trouve que la comparaison est hors sujet, si je puis dire. Elle est même illégitime.
Non, je n'ai pas fait de la comparaison, mais en fait, il les met. C'est lui qui le fait, en fait.
Oui, je sais. Mais parce que moi, je crois profondément à l'échec du fondamentalisme musulman. Ce n'est pas du tout une force d'attraction, ni pour la majorité des populations des pays arabes ou des pays musulmans, ni encore moins pour l'extérieur. Donc, je crois à leur échec international, et je crois également à leur échec local ou régional. Et c'est là où il faut quand même refaire la critique de la démocratie. Une des raisons pour lesquelles ce fondamentalisme musulman est si puissant, notamment les wahhabites en Arabie Saoudite par exemple, et également dans certains états du Golfe, c'est quand même la complicité de l'Occident pour soutenir ces régimes, ou en tout cas la cécité de l'Occident vis-à-vis des pays qui financent tous ces mouvements. Donc ça, je les mettrai à part. Et pour moi, je crois que la démocratie n'est pas... si elle a quelque chose d'universel, eh bien, le Moyen-Orient n'en est pas exclu. Je ne partage pas de tous les thèses de ceux qui disent la démocratie, c'est pour tout, partout, mais ça ne peut pas exister au Moyen-Orient. Non, je suis convaincu que l'ensemble de ces mouvements intégristes fondamentalistes, qui en sont aujourd'hui à un âge X de l'histoire, reviendront à un âge plus développé. En revanche, sur la Chine, je crois que ce qui est passionnant dans la Chine, c'est qu'elle peut être attractive tout en étant immobile. C'est l'attractivité, tout simplement, de l'efficacité. Et tant que ça dure, il y a véritablement une séduction pour le modèle chinois, y compris en Europe. On voit maintenant des gouvernements qui sont très tentés d'alliances commerciales, bien sûr, mais peut-être plus avec la Chine. Donc je crois que il faut vraiment réfléchir à cette attractivité du modèle chinois parce qu'ils ont non seulement les moyens, mais parce qu'ils ont un discours qui n'est pas un discours agressif vis-à-vis de l'extérieur. Les Chinois ne disent pas qu'ils veulent conquérir le monde. Ils disent qu'ils veulent jouer leur partie et être les plus forts, les meilleurs. Ils sont déjà deuxièmes sur le plan des brevets dans le monde. J'avais lu un papier récemment, le directeur de l'Agence internationale des brevets dit que dans quelques années, la Chine déposera plus de brevets que les Américains. Ils sont les premiers sur plein de nouvelles technologies, sur la reconnaissance faciale, sur la 5G, etc. Donc, il y a quelque chose en Chine qui est ce mélange à la fois d'autorité très détestable, mais d'innovation technologique, d'adaptabilité du système qui peut intéresser beaucoup de gens.
Ils ne sont pas prosélytes, mais ils disent quand même qu'ils sont numéro 1 en 2049.
Oui, mais...
Pour le centenaire du... Mais non, ils affichent l'ambition.
Oui, mais pas ni par la force, ni par la contrainte, en tout cas vis-à-vis des Européens. Vis-à-vis d'autres pays, la contrainte, elle existe par rapport...
Oui, mais c'est pas des gros balourds, ils jouent au jeu du go, on va dire.
Ils jouent mieux que nous durant la colonisation européenne.
Merci Nicole Guizotto et Hubert Védrine, c'était « Avoir raison ». Avec Francis Fukuyama, une émission d'Isabelle Lasserre réalisée par Lionel Quentin. À la technique, Valérie Lavalard, Archivina Gwen Michel. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Culture.